Guy de Maupassant, en famille. Le tramway de Neuilly venait de passer la porte Maillot et filait maintenant tout le long de la grande avenue qui aboutit à la Seine. La petite machine, attelée à son wagon, cornait pour éviter les obstacles, crachait sa vapeur, haletait comme une personne essoufflée qui court. Et ses pistons faisaient un bruit précipité de jambes de fer en mouvement. La lourde chaleur d'une fin de journée d'été tombait sur la route d'où s'élevait, bien qu'aucune brise ne soufflât, une poussière blanche, crayeuse, opaque, suffocante et chaude, qui se collait sur la peau molle, emplissait les yeux, entrait dans les poumons. Des gens venaient sur leurs portes, cherchant de l'air. Les glaces de la voiture étaient baissées et tous les rideaux flottaient, agités par la course rapide. Quelques personnes seulement occupaient l'intérieur, car on préférait, par ces jours chauds, l'impériale ou les plateformes. C'étaient de grosses dames, aux toilettes farces, de ces bourgeoises de banlieue, qui remplacent la distinction, dont elles manquent, par une dignité intempestive. Des messieurs là, du bureau, la figure jaunie, la taille tournée, une épaule un peu remontée par les longs travaux courbés sur les tables. Leurs faces inquiètes et tristes disaient encore les soucis domestiques, les incessants besoins d'argent, les anciennes espérances définitivement déçues. Car tous appartenaient à cette armée de pauvres diables râpés, qui végètent économiquement dans une chétive maison de plâtre, avec une plate-bande pour jardin, au milieu de cette campagne à dépotoir qui borde Paris. Tout près de la portière, un homme, petit et gros, la figure bouffie, le ventre tombant entre ses jambes ouvertes, tout habillé de noir et décoré, causait avec un grand maigre, d'aspect débraillé, vêtu de coutil blanc très sale et coiffé d'un vieux panama. Le premier parlait lentement, avec des hésitations qui le faisaient parfois paraître bègue. C'était monsieur Caravan, commis principal au ministère de la Marine. L'autre, ancien officier de santé à bord d'un bâtiment de commerce, avait fini par s'établir au rond-point de Courbevoie, où il appliquait sur la misérable population de ce lieu les vagues connaissances médicales qui lui restaient après une vie aventureuse. Il se nommait Chenet et se faisait appeler docteur. Des rumeurs couraient sur sa moralité. Monsieur Caravan avait toujours mené l'existence normale des bureaucrates. Depuis 30 ans, il venait invariablement à son bureau, chaque matin, par la même route, rencontrant à la même heure, aux mêmes endroits, les mêmes figures d'hommes allant à leurs affaires. Et il s'en retournait, chaque soir, par le même chemin, où il retrouvait encore les mêmes visages qu'il avait vus vieillir. Tous les jours, après avoir acheté sa feuille d'un sou à l'encoignure du faubourg Saint-Honoré, il allait chercher ses deux petits pains. Puis il entrait au ministère à la façon d'un coupable qui se constitue prisonnier. Et il gagnait son bureau vivement, le cœur plein d'inquiétude, dans l'attente éternelle d'une réprimande pour quelque négligence qu'il aurait pu commettre. Rien n'était jamais venu modifier l'ordre monotone de son existence, car aucun événement ne le touchait en dehors des affaires du bureau, des avancements et des gratifications. Soit qu'il fût au ministère, soit qu'il fût dans sa famille, car il avait épousé, sans dot, la fille d'un collègue. Il ne parlait jamais que du service. Jamais son esprit, atrophié par la besogne abêtissante et quotidienne, n'avait d'autres pensées, d'autres espoirs, d'autres rêves, que ceux relatifs à son ministère. mais une amertume gâtait toujours ses satisfactions d'employé. L'accès des commissaires de marine, des ferblantiers, comme on disait à cause de leurs galons d'argent, aux emplois de sous-chef et de chef. Et chaque soir, en dînant, il argumentait fortement devant sa femme, qui partageait ses haines, pour prouver qu'il est inique à tous égards de donner des places à Paris aux gens destinés à la navigation. Il était vieux maintenant, n'ayant point senti passer sa vie, car le collège, sans transition, avait été continué par le bureau, et les pions, devant qui il tremblait autrefois, étaient aujourd'hui remplacés par les chefs qu'il redoutait effroyablement. Le seuil de ces despotes en chambre le faisait frémir des pieds à la tête, et de cette continuelle épouvante, il gardait une manière gauche de se présenter, une attitude humble et une sorte de bégaiement nerveux. Il ne connaissait pas plus Paris que ne le peut connaître un aveugle conduit par son chien chaque jour sous la même porte. Et s'il lisait dans son journal d'un sou les événements et les scandales, il les percevait comme des contes fantaisistes inventés à plaisir pour distraire les petits employés. Homme d'ordre, réactionnaire sans parti déterminé, mais ennemi des nouveautés, il passait les faits politiques que sa feuille, du reste, défigurait toujours pour les besoins payés d'une cause. Et quand il remontait, tous les soirs, l'avenue des Champs-Élysées, il considérait la foule houleuse des promeneurs et le flot roulant des équipages à la façon d'un voyageur dépaysé qui traverserait des contrées lointaines. Ayant complété, cette année même, ses 30 années de service obligatoire, on lui avait remis, au 1er janvier, la croix de la Légion d'honneur, qui récompense, dans ses administrations militarisées, la longue et misérable servitude. On dit « loyaux service ». De ces tristes forçats, rivés au carton vert. Cette dignité inattendue, lui donnant de sa capacité une idée haute et nouvelle, avait en tout changé ses mœurs. Il avait dès lors supprimé les pantalons de couleur et les vestons de fantaisie, porté des culottes noires et de longues redingotes où son ruban très large faisait mieux, et rasé tous les matins, écurant ses ongles avec plus de soin, changeant de linge tous les 2 jours, par un légitime sentiment de convenance et de respect pour l'ordre national dont il faisait partie, il était devenu, du jour au lendemain, un autre qu'avant, rincé, majestueux et condescendant. Chez lui, il disait « ma croix » à tout propos. Un tel orgueil lui était venu qu'il ne pouvait plus même souffrir à la boutonnière des autres aucun ruban d'aucune sorte. Il s'exaspérait surtout à la vue des ordres étrangers, qu'on ne devrait pas laisser porter en France. Et il en voulait particulièrement au docteur Chenet, qu'il retrouvait tous les jours au tramway, orné d'une décoration quelconque, blanche, bleue, orange ou verte. La conversation des 2 hommes, depuis l'Arc de Triomphe jusqu'à Neuilly, était du reste toujours la même. Et ce jour-là, comme les précédents, ils s'occupèrent d'abord de différents abus locaux qui les choquaient l'un et l'autre, le maire de Neuilly en prenant à son aise. Puis, comme il arrive infailliblement en compagnie d'un médecin, Caravan aborda le chapitre des maladies, espérant de cette façon glaner quelques petits conseils gratuits ou même une consultation en s'y prenant bien, sans laisser voir la ficelle. Sa mère, du reste, l'inquiétait depuis quelque temps. Elle avait des syncopes fréquentes et prolongées, et bien que vieille de 90 ans, elle ne consentait point à se soigner. Son grand âge attendrissait Caravan, qui répétait sans cesse au docteur Chenet « Envoyez-vous souvent arriver là ?» Et il se frottait les mains avec bonheur. Non qu'il tînt peut-être beaucoup à voir la bonne femme s'éterniser sur terre, mais parce que la longue durée de la vie maternelle était comme une promesse pour lui-même. Il continua.
« Oh, dans ma famille, on va loin. Ainsi, moi, je suis sûr qu'à moins d'accidents, je mourrai très vieux. »
L'officier de santé jeta sur lui un regard de pitié. Il considéra une seconde la figure rougeaude de son voisin, son cou graisseux, son bedon tombant entre deux jambes flasques et grasses, toute sa rondeur apoplectique de vieil employé ramolli. Et, relevant d'un coup de main le panama grisâtre qui lui couvrait le chef, il répondit en ricanant
« Pas si sûr que ça, mon bon. Votre mère est une ascète et vous n'êtes qu'un plein de soupe. »
Caravan, troublé, se tut. Mais le tramway arrivait à la station. Les deux compagnons descendirent et M. Chenet offrit le vermouth au café du Globe, en face, où l'un et l'autre avaient leurs habitudes. Le patron, un ami, leur allongea deux doigts qu'ils serrèrent par-dessus les bouteilles du comptoir. Et ils allèrent rejoindre trois amateurs de dominos, attablés là depuis midi. Des paroles cordiales furent échangées avec le « quoi de neuf ?» inévitable. Ensuite, les joueurs se remirent à leur partie. Puis on leur souhaita le bonsoir, ils tendirent leurs mains sans lever la tête, et chacun rentra dîner. Caravan habitait, auprès du rond-point de Courbevoie, une petite maison à deux étages dont le rez-de-chaussée était occupé par un coiffeur. Deux chambres, une salle à manger et une cuisine où des sièges recollés erraient de pièce en pièce selon les besoins, formaient tout l'appartement que Madame Caravan passait son temps à nettoyer, tandis que sa fille Marie-Louise, âgée de 12 ans, et son fils Philippe-Auguste, âgé de 9, galopinaient dans les ruisseaux de l'avenue avec tous les polissons du quartier. Au-dessus de lui, Caravan avait installé sa mère, dont l'avarice était célèbre aux environs, et dont la maigreur faisait dire que le bon Dieu avait appliqué sur elle-même ses propres principes de parcimonie. Toujours de mauvaise humeur, elle ne passait point un jour sans querelle et sans colère furieuse. Elle apostrophait de sa fenêtre les voisins sur leurs portes, les marchandes des quatre saisons, les balayeurs et les gamins, qui, pour se venger, la suivaient de loin quand elle sortait, en criant « À la chienlit !» Une petite bonne normande, incroyablement étourdie, faisait le ménage et couchait au second près de la vieille dans la crainte d'un accident. Lorsque Caravan rentra chez lui, sa femme, atteinte d'une maladie chronique de nettoyage, faisait reluire avec un morceau de flanelle l'acajou des chaises éparses dans la solitude des pièces. Elle portait toujours des gants de fil, ornait sa tête d'un bonnet à ruban multicolore, sans cesse chaviré sur une oreille, et répétait, chaque fois qu'on la surprenait, cirant, brossant, astiquant ou lessivant, « Je ne suis pas riche, chez moi tout est simple, mais la propreté c'est mon luxe, et celui-là en vaut bien un autre. » Douée d'un sens pratique opiniâtre, elle était en tout le guide de son mari. Chaque soir, à table, et puis dans leur lit, ils causaient longuement des affaires du bureau. Et bien qu'elle eût 20 ans de moins que lui, il se confiait à elle comme à un directeur de conscience et suivait en tout ses conseils. Elle n'avait jamais été jolie, elle était laide maintenant, de petite taille et maigrelette. L'inhabileté de sa vêture avait toujours fait disparaître ses faibles attributs féminins, qui auraient dû saillir avec art sous un habillage bien entendu. Ses jupes semblaient sans cesse tourner d'un côté, et elle se grattait souvent, n'importe où, avec indifférence du public, par une sorte de manie qui touchait au tic. Le seul ornement qu'elle se permit consistait en une profusion de rubans de soie entremêlée sur les bonnets prétentieux qu'elle avait coutume de porter chez elle. Aussitôt qu'elle aperçut son mari, elle se leva et, l'embrassant sur ses favoris, « As-tu pensé à Potin, mon ami ?» C'était pour une commission qu'il avait promis de faire. Mais il tomba, atterré sur un siège, il venait encore d'oublier pour la quatrième fois.
« C'est une fatalité !» disait-il.
« C'est une fatalité! J'ai beau y penser toute la journée, quand le soir vient, j'oublie toujours !» Mais comme il semblait désolé, elle le consola. « Tu y songeras demain, voilà tout. Rien de neuf au ministère ?»«
Si, une grande nouvelle. Encore un ferblantier nommé sous-chef. »
Elle devint très sérieuse. « À quel bureau ?»«
Au bureau des achats extérieurs. »
Elle se fâchait. « À la place de Ramon, alors. Juste celle que je voulais pour toi. Et lui, Ramon, à la retraite ?»
Il balbutia. À la retraite.
Elle devint rageuse, le bonnet partit sur l'épaule. C'est fini, vois-tu, cette boîte-là, rien à faire là-dedans maintenant. Et comment s'appelle-t-il, ton commissaire ?
Bonasso.
Elle prit l'annuaire de la marine, qu'elle avait toujours sous la main, et chercha. Bonasso. Toulon. Né en 1851. Élève commissaire en 1871, sous-commissaire en 1875. A-t-il navigué, celui-là ? À cette question, Caravan se rasséréna. Une gaieté lui vint qui secouait son ventre. Comme Balin ! Juste comme Balin, son chef ! Et il ajouta, dans un rire plus fort, une vieille plaisanterie que tout le ministère trouvait délicieuse. Il ne faudrait pas les envoyer par eau inspecter la station navale du point du jour. Ils seraient malades sur les bateaux mouches. Mais elle restait grave, comme si elle n'avait pas entendu. Puis elle murmura, en se grattant lentement le menton, « Si seulement on avait un député dans sa manche! Quand la chambre saura tout ce qui se passe là-dedans, le ministre sautera du coup !» Des cris éclatèrent dans l'escalier, coupant sa phrase. Marie-Louise et Philippe-Auguste, qui revenaient du ruisseau, se flanquaient de marche en marche des gifles et des coups de pied. Leur mère s'élança, furieuse, et, les prenant chacun par un bras, elle les jeta dans l'appartement en les secouant avec vigueur. Sitôt qu'ils aperçurent leur père, ils se précipitèrent sur lui, et il les embrassa tendrement, longtemps. Puis, s'asseyant, les prit sur ses genoux et fit la causette avec eux. Philippe-Auguste était un vilain mioche, dépeigné, sale des pieds à la tête, avec une figure de crétin. Marie-Louise ressemblait à sa mère déjà, parlait comme elle, répétant ses paroles, l'imitant même en ses gestes. Elle dit aussi « Quoi de neuf au ministère ?» Il lui répondit gaiement « Ton ami Ramon, qui vient dîner ici tous les mois, va nous quitter, fifille. Il y a un nouveau sous-chef à sa place. » Elle leva les yeux sur son père et, avec une commisération d'enfant précoce, « Encore un qui t'a passé sur le dos, alors ?» Il finit de rire et ne répondit pas. Puis, pour faire diversion, s'adressant à sa femme qui nettoyait maintenant les vitres, « La maman va bien, là-haut ?» Madame Caravan cessa de frotter, se retourna, redressa son bonnet tout à fait parti dans le dos et, la lèvre tremblante, « Ah oui, parlons-en de ta mère, elle m'en a fait une jolie. Figure-toi que tantôt Madame Le Baudin, la femme du coiffeur, est montée pour m'emprunter un paquet d'amidon et comme j'étais sortie, ta mère l'a chassée en la traitant de mendiante. » Aussi, je l'ai arrangée, la vieille. Elle a fait semblant de ne pas entendre, comme toujours, quand on lui dit ses vérités. Mais elle n'est pas plus sourde que moi, vois-tu. C'est de la frime, tout ça. Et la preuve, c'est qu'elle est remontée dans sa chambre, aussitôt, sans dire un mot. » Caravan, confus, se taisait. quand la petite bonne se précipita pour annoncer le dîner. Alors, afin de prévenir sa mère, il prit un manche à balai, toujours caché dans un coin, et frappa 3 coups au plafond. Puis on passa dans la salle, et Madame Caravan, la jeune, servit le potage en attendant la vieille. Elle ne venait pas, et la soupe refroidissait. Alors on se mit à manger tout doucement. Puis, quand les assiettes furent vides, on attendit encore. Madame Caravan, furieuse, s'en prenait à son mari. « Elle le fait exprès, sais-tu ? Aussi, tu la soutiens toujours !» Lui, fort perplexe, pris entre les deux, envoya Marie-Louise chercher grand-maman. Et il demeura immobile, les yeux baissés, tandis que sa femme tapait rageusement le pied du verre avec le bout de son couteau. Soudain, la porte s'ouvrit et l'enfant seul réapparut, tout essoufflé et fort pâle. Elle dit très vite « Grand-maman est tombée par terre !» Caravan, d'un bond, fut debout et, jetant sa serviette sur la table, il s'élança dans l'escalier, où son pas, lourd et précipité, retentit pendant que sa femme, croyant à une ruse méchante de sa belle-mère, s'en venait plus doucement en haussant avec mépris les épaules. La vieille gisait de tout son long sur la face au milieu de la chambre. Et, lorsque son fils l'eut retournée, elle apparut, immobile et sèche, avec sa peau jaunie, plissée, tannée, ses yeux clos, ses dents serrées, et tout son corps maigre roidi. Caravan, à genoux près d'elle, gémissait « Ma pauvre mère, ma pauvre mère !» Mais l'autre Madame Caravan, après l'avoir considérée un instant, déclara « Bah, elle a encore une syncope, voilà tout. C'est pour nous empêcher de dîner, sois-en sûre. » On porta le corps sur le lit, on le déshabilla complètement. Et tous, Caravan, sa femme, la bonne, se mirent à la frictionner. Malgré leurs efforts, elle ne reprit pas connaissance. Alors, on envoya Rosalie chercher le docteur Chenet. Il habitait sur le quai, vers Suresnes. C'était loin, l'attente fut longue. Enfin, il arriva. Et, après avoir considéré, palpé, ausculté la vieille femme, il prononça « C'est la fin ». Caravan s'abattit sur le corps, secoué par des sanglots précipités. Et il baisait convulsivement la figure rigide de sa mère, en pleurant avec tant d'abondance que de grosses larmes tombaient comme des gouttes d'eau sur le visage de la morte. Madame Caravan, la jeune, eut une crise convenable de chagrin, et, debout derrière son mari, elle poussait de faibles gémissements en se frottant les yeux avec obstination. Caravan, la face bouffie, ses maigres cheveux en désordre, très laid dans sa douleur vraie, se redressa soudain. « Mais êtes-vous sûr, docteur ? Êtes-vous bien sûr ?» L'officier de santé s'approcha rapidement et, maniant le cadavre avec une dextérité professionnelle, comme un négociant qui ferait valoir sa marchandise, « Tenez, mon bon, regardez l'œil !» Il releva la paupière et le regard de la vieille femme réapparut sous son doigt, nullement changé, avec la pupille un peu plus large, peut-être. Caravan reçut un coup dans le cœur, et une épouvante lui traversa les os. Monsieur Chenet prit le bras crispé, força les doigts pour les ouvrir, et, l'air furieux comme en face d'un contradicteur, « Mais regardez-moi cette main, je ne m'y trompe jamais, soyez tranquille !» Caravan retomba vautré sur le lit, beuglant presque. Tandis que sa femme, pleurnichant toujours, faisait les choses nécessaires. Elle approcha la table de nuit sur laquelle elle étendit une serviette, posa dessus 4 bougies qu'elle alluma, prit un rameau de buis accroché derrière la glace de la cheminée et le posa entre les bougies dans une assiette qu'elle emplit d'eau claire, n'ayant point d'eau bénite. Mais, après une réflexion rapide, elle jeta dans cette eau une pincée de sel s'imaginant sans doute exécuter là une sorte de consécration. Lorsqu'elle eut terminé la figuration qui doit accompagner la mort, elle resta debout, immobile. Alors l'officier de santé, qui l'avait aidé à disposer les objets, lui dit tout bas « Il faut emmener Caravan !» Elle fit un signe d'assentiment et, s'approchant de son mari qui sanglotait, toujours à genoux, elle le souleva par un bras, pendant que M. Chenet le prenait par l'autre. On l'assit d'abord sur une chaise, et sa femme, le baisant au front, le sermonna. L'officier de santé appuyait ses raisonnements, conseillant la fermeté, le courage, la résignation, tout ce qu'on ne peut garder dans ces malheurs foudroyants. Puis, tous deux le prirent de nouveau sous les bras et l'emmenèrent. Il larmoyait comme un gros enfant, avec des hoquets convulsifs, avachi, les bras pendants, les jambes molles. Et il descendit l'escalier sans savoir ce qu'il faisait, remuant les pieds machinalement. On le déposa dans le fauteuil qu'il occupait toujours à table, devant son assiette presque vide, où sa cuillère encore trempait dans un reste de soupe. Et il resta là, sans un mouvement, l'œil fixé sur son verre, tellement hébété qu'il demeurait même sans penser. Madame Caravan, dans un coin, causait avec le docteur, s'informait des formalités, demandait tous les renseignements pratiques. À la fin, M. Chenet, qui paraissait attendre quelque chose, prit son chapeau et, déclarant qu'il n'avait pas dîné, fit un salut pour partir. Elle s'écria « Comment, vous n'avez pas dîné ? Mais restez, docteur, restez donc, on va vous servir ce que nous avons, car vous comprenez que nous ne mangerons pas grand-chose. » Il refusa, s'excusant, elle insistait. « Comment donc ? Mais restez ! Dans des moments pareils, on est heureux d'avoir des amis près de soi. Et puis, vous déciderez peut-être mon mari à se réconforter un peu. Il a tant besoin de prendre des forces. » Le docteur s'inclina et, déposant son chapeau sur un meuble, « En ce cas, j'accepte, madame. » Elle donna des ordres à Rosalie, affolée, puis elle-même se mit à table « Pour faire semblant de manger, disait-elle, et tenir compagnie au docteur. » On reprit du potage froid. M. Chenet en redemanda. Puis apparut un plat de gras double lyonnais qui répandit un parfum d'oignon et dont Madame Caravan se décida à goûter. « Il est excellent !» dit le docteur. Elle sourit. « N'est-ce pas ?» Puis, se tournant vers son mari, « Prends-en donc un peu, mon pauvre Alfred, seulement pour te mettre quelque chose dans l'estomac. Songe que tu vas passer la nuit. » Il tendit son assiette docilement, comme il aurait été se mettre au lit, si on le lui eût commandé, obéissant à tout, sans résistance et sans réflexion. Et il mangea. Le docteur, se servant lui-même, puisa trois fois dans le plat, tandis que Madame Caravan, de temps en temps, piquait un gros morceau au bout de sa fourchette et l'avalait avec une sorte d'inattention étudiée. Quand parut un saladier plein de macaronis, le docteur murmura « Pigre, voilà une bonne chose !» Et Madame Caravan, cette fois, servit tout le monde. Elle remplit même les soucoupes où barbotaient les enfants, qui, laissés libres, buvaient du vin pur et s'attaquaient déjà sous la table à coups de pied. M. Chenet rappela l'amour de Rossini pour ce mets italien. Puis, tout à coup, « Tiens, ça rime. On pourrait commencer une pièce de vers. Le maestro Rossini aimait le macaroni. » On ne l'écoutait point. Madame Caravan, devenue soudain réfléchie, songeait à toutes les conséquences probables de l'événement. Tandis que son mari roulait des boulettes de pain qu'il déposait ensuite sur la nappe et qu'il regardait, fixement d'un air idiot. Comme une soif ardente lui dévorait la gorge, il portait sans cesse à sa bouche son verre tout rempli de vin. Et sa raison, culbutée déjà par la secousse et le chagrin, devenait flottante, lui paraissait danser dans l'étourdissement subi de la digestion commencée et pénible. Le docteur, du reste, buvait comme un trou, se grisait visiblement. Et Madame Caravan elle-même, subissant la réaction qui suit tout ébranlement nerveux, s'agitait, troublée aussi, bien qu'elle ne prît que de l'eau, et se sentait la tête un peu brouillée. Monsieur Chenet s'était mis à raconter des histoires de décès qui lui paraissaient drôles, car dans cette banlieue parisienne, remplie d'une population de province, on retrouve cette indifférence du paysan pour le mort, fût-il son père ou sa mère, cet irrespect, cette férocité inconsciente, si commun dans les campagnes et si rares à Paris. Il disait « Tenez, la semaine dernière, rue de Puteau, on m'appelle, j'accours. Je trouve le malade trépassé et, auprès du lit, la famille qui finissait tranquillement une bouteille d'anisette achetée la veille pour satisfaire un caprice du moribond. » Mais Madame Caravan n'écoutait pas, songeant toujours à l'héritage. Et Caravan, le cerveau vidé, ne comprenait rien. On servit le café, qu'on avait fait très fort pour se soutenir le moral. Chaque tasse, arrosée de cognac, fit monter aux joues une rougeur subite, mêla les dernières idées de ses esprits vacillant déjà. Puis le docteur, s'emparant soudain de la bouteille d'eau-de-vie, versa la rincette à tout le monde. Et sans parler, engourdi dans la chaleur douce de la digestion, saisi malgré eux par ce bien-être animal que donne l'alcool après dîner, il se gargarisait lentement avec le cognac sucré qui formait un sirop jaunâtre au fond des tasses. Les enfants s'étaient endormis et Rosalie les coucha. Alors, Caravan, obéissant machinalement au besoin de s'étourdir, qui pousse tous les malheureux, reprit plusieurs fois de l'eau-de-vie, et son œil hébété luisait. Le docteur enfin se leva pour partir, et, s'emparant du bras de son ami, « Allons, venez avec moi, » dit-il, « un peu d'air vous fera du bien. Quand on a des ennuis, il ne faut pas s'immobiliser. » L'autre obéit docilement, mit son chapeau, prit sa canne, sortit. Et tous deux, se tenant par le bras, descendirent vers la Seine sous les claires étoiles.